Au moment où nous avions pensé cette conférence, il ne s'agissait pas d'une conférence, il s'agissait d'une discussion avec un historien de l'art canadien, Serge Guilbeault, d'origine française, dont le livre s'appelle « Comment New York a volé l'idée d'art moderne », le livre fameux sur lequel je vais revenir. Je vais essayer en partie de me faire son porte-parole, mais comme la discussion était fondée sur le fait que nous sommes désagrément assez fort sur un certain nombre de sujets, ça va être un exercice un peu difficile, et ce que je vais vous proposer va être un petit peu différent de ce que j'avais pensé initialement. L'idée étant de comprendre comment et pourquoi nous pouvons penser aujourd'hui de façon assez spontanée et de façon assez large, si l'on pense à l'art de l'après-Seconde Guerre mondiale, que effectivement les artistes les plus importants ont nom Jackson Pollock, Bill de Kooning, Barnett Newman ou Mark Rothko, même si d'autres artistes peuvent avoir une place relativement importante. L'histoire traditionnelle qui nous est racontée, c'est celle d'un passage de témoin, mais d'un passage de témoin pacifique, je dirais, des États-Unis, de la France aux États-Unis, ou plutôt de Paris à New York. Avec d'abord une réception très forte à New York des différentes versions du modernisme parisien dans les années 1930. D'un côté, l'abstraction moderniste qui est en particulier vue synthétisée jusqu'à ce schéma dans l'exposition Cubism and Abstract Art qui a lieu au MoMA en 1936. Puis, le surréalisme et le musée d'art moderne de New York est à nouveau le fer de lance de sa présentation. Avec l'année suivante, donc comme une espèce de balancier explicite, l'exposition Fantastic Art Dada Surrealism, donc qui est essentiellement consacrée au surréalisme et à ses prolégomènes. Introduction de l'art moderniste européen qui est aussi possible grâce à la présence sur le sol des États-Unis d'œuvres majeures réalisées en Europe qui viennent très rapidement aux États-Unis, avec l'organisation même quasiment rhétorique d'une sorte de duopole, Matisse d'un côté, Picasso de l'autre, avec des œuvres majeures de Matisse acquises dès les années 1905 par des collectionneurs des États-Unis et rapatriées aux États-Unis après la Première Guerre mondiale, des commandes importantes comme la danse commandé par Albert Barnes pour sa fondation à Marion près de Philadelphie, ou la venue plus complexe, et je ne vais pas rentrer ici dans cette histoire, de Guernica, de Picasso et d'œuvres importantes de Picasso avec toute une suite d'expositions. Bref, grâce à cette double introduction, à cette double réception, les États-Unis et New York en particulier sont le pays de l'art moderne immédiatement au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Un symbole de cette double ligne pourrait être la figure de Peggy Guggenheim avec ses fameuses deux boucles d'oreilles commandées d'un côté à un artiste abstrait, Alexander Calder, artiste américain, mais ayant vécu à Paris une grande partie de sa vie, et de l'autre côté, le surréaliste français Yves Tanguy. Alors, je n'ai pas trouvé de photo qui la montre portant une boucle d'oreille de chaque, mais en tout cas, c'est ça que dit la légende. Dans ces photos de Bernice Abbott, elle a à chaque fois une seule paire et pas les deux. Peggy Guggenheim est celle qui réconcilie explicitement donc les deux tendances, à la fois de cette façon symbolique par le port de ses boucles d'oreilles, et puis par ce qu'elle fait dans sa galerie qu'elle ouvre à New York en 1942, la galerie Art of the Century, l'art de ce siècle, dont elle confie le design à Frédéric Kiesler, et qui comporte une galerie abstraite, les tableaux étant placés sur des cordes que l'on peut tirer pour se rapprocher du tableau, ou plutôt rapprocher le tableau de soi, et puis la galerie surréaliste que vous avez en bas ici. Donc, l'abstraction moderniste, le surréalisme sont présents de façon extrêmement forte à New York, et en quelque sorte l'étincelle qui fait véritablement changer les choses dans ce premier récit canonique, traditionnel, de l'histoire de l'art des États-Unis de l'après-Seconde Guerre mondiale, ce qui fait véritablement basculer les choses, c'est le déclenchement de la guerre et l'arrivée en nombre important d'artistes européens qui s'exilent aux États-Unis. C'est un sujet qui a été extrêmement étudié. Là non plus, je ne vais pas rentrer dans les détails du sujet, ni vous donner des listes de noms et des listes de un grand nombre d'œuvres. Mais si je m'en tiens à ce double fil abstraction et surréalisme, évidemment, la présence à New York et dans la région de New York, mais avec des allers-retours fréquents entre la campagne et la ville, de André Masson pour le surréalisme et de Fernand Léger pour l'abstraction est une chose extrêmement importante. Ils ne sont pas du tout tout seuls. Comme le montre cette photographie prise dans l'appartement de Peggy Guggenheim en 1942 et représentant essentiellement les artistes exilés. Alors je ne vais pas faire la liste là non plus, mais simplement, je ne sais pas si on voit le pointeur, non, on ne le voit pas. Simplement, si je commence par en haut à droite, vous avez Piet Mondrian. À côté de lui, vous avez Marcel Duchamp. Juste en dessous de Marcel Duchamp, vous avez Fernand Léger. À côté de Fernand Léger, vous avez André Breton. Complètement au bout de cette ligne, avec sa très belle chevelure blanche, vous avez Max Ernst. Bref, les principaux protagonistes, pas tous, mais une bonne partie de ce qui s'est passé en Europe avant la Seconde Guerre mondiale, d'important dans le renouvellement de l'art contemporain de l'époque. Ces artistes, dans ce récit canonique, ont un effet de transmission important à l'égard de la jeune génération et aussi de désinhibition dans un contexte dans lequel la plupart des artistes et des critiques états-uniens ont le sentiment, comme le formulera le grand critique Harold Rosenberg en 1959, mais on trouve des formulations équivalentes, mais aucune aussi belle que celle-là, dans un article qui s'appelle « La chute de Paris », que, je cite Rosenberg, « le laboratoire du XXe siècle a été fermé ». Transmission qui est une transmission très directe, puisque autour d'un des surréalistes qu'on voit d'ailleurs sur la photographie, Roberto Matta, qui a travaillé à Paris et donc qui est arrivé aux États-Unis avec la guerre, autour de Roberto Matta, un petit groupe de jeunes artistes new-yorkais se réunissent. On y trouve des artistes comme Robert Motherwell, on y trouve Jackson Pollock, qui va devenir le plus connu d'entre eux, on y trouve aussi des artistes que la postérité a moins honoré de ses faveurs, comme William Basiotes, qui est encore relativement connu, ou Jerome Kamrowski, qui lui a pratiquement complètement disparu des histoires de l'art canonique. Et c'est dans cet entourage de Roberto Matta que ces artistes apprennent, nous dit ce récit, ce que être un surréaliste abstrait veut dire, c'est-à-dire qu'ils se mettent à utiliser les techniques de l'automatisme au bénéfice de l'abstraction, la production d'images directement ancrées sur le rêve ou sur la manipulation. En l'occurrence, ce qu'on attribue traditionnellement dans cette peinture collective qui est réalisée par Pollock, Basiotes et Gamrowski à Pollock, c'est évidemment les tracés linéaires en faisant couler de la peinture sur sa toile. Transmission directe, encore une fois, avec combinaison des deux, qui permet à Pollock, en systématisant l'automatisme surréaliste, qu'on trouvait de façon partielle, par exemple chez Max Ernst, de faire des tableaux complètement abstraits qui incarnent ce que l'on va appeler progressivement l'expressionnisme abstrait. Le terme apparaît en 1946 et petit à petit, il va être utilisé pour désigner ce groupe d'artistes dans lequel on trouve Jackson Pollock, mais aussi d'autres, sur lesquels je vais immédiatement revenir, en insistant sur le fait que chacun de ces artistes états-uniens qui sont nés dans les années 1900-1910 combine donc ces deux influences parisiennes pour en faire quelque chose de proprement américain. C'est le cas de Mark Rothko, qui passe lui aussi d'une peinture de type surréaliste avec une iconographie importante qu'il pratique sans véritable interruption des années 1930 au début des années 1940, à une peinture abstraite pour laquelle il est connu aujourd'hui et qui en fait un des emblèmes de l'expressionnisme abstrait, comme ce tableau de 1949. C'est le cas également, mais je ne vais pas vous refaire la démonstration à chaque fois, de Bill de Kooning qui est arrivé des Pays-Bas aux États-Unis dans les années 1920, ou de Robert Motherwell, qui est, lui, un pur produit des anglo-américains de la côte est des États-Unis. Il y a évidemment dans toute cette histoire quelque chose qui a à voir aussi avec l'idée qu'il y a un assimilationnisme extrêmement fort des États-Unis dans tous les domaines, mais donc aussi dans le domaine artistique. Et c'est à partir de cette assimilation, et à partir d'elle seulement, que l'on peut avoir l'idée d'une peinture proprement américaine, ce qui va être thématisé par de très nombreux critiques dans les années 1950, et dont le symbole est peut-être cet acte de déclaration de renouveau et de coupure complète avec ce qui s'est passé avant. Le tableau « Une main » de Barnett Newman, le titre est à peu près intraduisible, « One Month » en anglais, peint en 1948 et laissé tel quel, et que Newman commentera indirectement dans les années 60 en insistant sur cet effet de rupture et de transfert complet aux États-Unis de ce qui peut se faire dans l'art moderne. Je cite Newman, « Il y avait eu la guerre, Pearl Harbor et la bataille d'Angleterre. Du coup, j'ai dû repartir à zéro, starting from scratch, I had to start from scratch, comme si la peinture n'avait jamais existé, ce qui était une autre manière de dire que la peinture était morte. C'en était fini des vieux machins, il ne signifiait plus rien, il n'avait plus aucun intérêt dans cette situation. » Tout cela donc fait une école proprement américaine, l'expressionnisme abstrait, qui triomphe d'abord sur la scène nationale dont, à partir du moment où c'est effectivement l'histoire qui est racontée dans la presse à grand tirage, et cela, ça se produit dès 1949, avec cet article très ambivalent dans le texte, mais évidemment on sait depuis longtemps que dans la presse illustrée, les gros titres et les images font plus que le texte, et que les textes des journalistes ne sont pas beaucoup plus lus que les textes des historiens de l'art. Cet article très important, paru donc dans Life Magazine, avec ce titre, Jackson Pollock est-il le plus grand peintre américain des États-Unis, vivant aux États-Unis. Donc, cette idée que, j'ai mal traduit le titre, est-il le plus grand artiste vivant aux États-Unis, puisqu'on a insisté avant sur le fait que les artistes modernistes européens étaient arrivés aux États-Unis en exil, c'est une manière de dire que désormais, effectivement, c'est un artiste américain, pleinement américain, né sur le sol américain, qui est le plus grand artiste présent aux États-Unis. À partir de ce moment-là, le terme d'expressionnisme abstrait est utilisé. Des critiques se partagent le champ, Greenberg et Rosenberg principalement, pour essayer d'expliquer toute cette histoire que je vous ai très brièvement résumée. Jackson Pollock est un héros de son vivant. Il le devient encore plus lorsqu'il meurt tragiquement dans un accident de voiture. Mort à la James Dean, de toute façon déjà il a l'air d'un héros par rapport aux artistes français de la même époque, il est mieux habillé, peut-être pas que Picasso, mais il est mieux habillé, il a l'air plus cool, il est avec sa cigarette, son costume en jean, etc. Il est exactement l'équivalent d'un acteur de cinéma. Un deuxième héros, parce qu'il faut toujours dans une histoire avoir un good guy et un bad guy, et un premier et un second qui lui contestent son titre, donc ça sera Bill de Kooning, tout ça fait le triomphe de la peinture américaine. Le livre de Irving Sandler ne sera publié qu'en 1970, mais l'idée est dans l'air bien avant. Il ne fait que la résumer. Et la perception internationale donc de cette victoire, c'est l'obtention du premier prix de peinture à la Biennale de Venise par Robert Rauschenberg, vu à ce moment-là comme un héritier de l'expressionnisme abstrait, en 1964, donc ça prend un peu de temps pour que ça se répande complètement en Europe, mais c'est quand même très présent dès la fin des années 50, début des années 1960, c'est vécu comme un traumatisme par les Français, comme le montre ce dessin, puisque tout de suite on accuse tous les Américains d'en avoir fait une manipulation. Cela dit, pendant longtemps, ça ne remet pas en cause ce récit traditionnel. Le fait que des Français aient pu percevoir tout cela comme une manipulation était juste vécu comme de la mauvaise foi de perdant, puisque, à partir de là, on ne s'intéresse plus guère à ce qui a pu être fait en dehors des États-Unis. L'important, c'est que les artistes états-uniens ont produit un effet de rupture en même temps qu'un effet de synthèse. Les titres des tableaux le disent, une main. On est au début d'une nouvelle histoire Et il va falloir attendre le début des années 1970 pour que cette histoire soit remise en cause. Donc là, je mets brièvement ma casquette Serge Guilbeault, en déformant forcément en partie sa pensée et sa parole. Serge Guilbeault qui a été précédé dans cette déconstruction de cette histoire canonique et magnifique, qui est évidemment en partie, vous l'aurez compris, une mythologisation, par deux critiques et historiens de l'art, qui écrivent coup sur coup deux articles dans Art Forum, qui est la principale revue d'art du début des années 70 aux États-Unis. Max Kosloff, qui écrit un titre dans lequel il fait un article, qui l'intitule « La peinture américaine pendant la guerre froide » et dans lequel il fait un parallèle entre le discours politique de la guerre froide et de l'anticommunisme et le discours sur l'art de cette période. Il les place simplement côte à côte. Et puis Eva Cockcroft, qui écrit l'année suivante un article qui s'appelle « L'expressionnisme abstrait, instrument ou arme, weapon » de la guerre froide. Donc cette fois-ci, ça n'est plus une juxtaposition, c'est une démonstration du fait que le triomphe de l'art américain est en réalité le résultat d'une manipulation, d'une volonté politique de la part du pouvoir américain, en particulier de la CIA, qui finance notamment une organisation très importante pour la diffusion de l'art américain, qui est le Congress for Cultural Freedom, le Congrès pour la liberté culturelle, avec une politique internationale d'imposition de l'expressionnisme abstrait, explique Eva Cockcroft, dans le cadre de la lutte contre le communisme en provenance de la Russie soviétique, qui fait que on valorise effectivement un art dont les valeurs sont celles de la liberté, de l'individualité, contre le collectivisme, avec des figures pivots de ce point de vue-là, en particulier celle de Nelson Rockefeller, qui est à la fois directeur du bureau des affaires interaméricaines, c'est-à-dire qui s'occupe de la politique étrangère américaine pour l'ensemble du continent américain, et vice-président du musée d'art moderne, du MoMA de New York, en charge des relations internationales, qui met en place notamment le programme international du MoMA, qui va être par exemple en charge du pavillon américain à la Biennale de Venise. Alors même si pour la Biennale de Venise 64, ça n'est plus le MoMA qui est en charge du pavillon, il n'empêche que dans cette histoire, on en fait le résultat. Celui qui avait d'ailleurs été secrétaire général du MoMA de 1948 à 1949, Thomas Braden, étant devenu responsable des activités culturelles de la CIA de 1951 à 1954. Comme le dit Eva Cockcroft, dans le monde de l'art, l'expressionnisme abstrait constituait le style idéal pour des activités de propagande. C'était le parfait contraire de la nature enrégimentée, traditionnelle et étroite du réalisme socialiste communiste. Cette manière de penser le rapport entre l'expressionnisme abstrait et un parti politique impulsé par le gouvernement aux États-Unis, il va être systématisé, complexifié par Serge Guilbeault dans sa thèse qui est publiée en 1983 sous le titre évidemment très explicite et très fort de « Comment New York a volé l'idée d'art moderne », donc avec l'idée qu'il y a bien eu un rapt et un rapt volontaire. Et Guilbeault va montrer de façon précise comment cela passe par une dépolitisation des artistes américains, une forme de passage progressif pendant les années 1930 d'un engagement communiste traditionnel inféodé au communisme étatique bolchévique, enfin soviétique, puis au passage par le trotskisme, puis par l'abandon progressif du trotskisme pendant la Deuxième Guerre mondiale au bénéfice d'un alignement sur des positions qu'on appelle en France des positions libérales. Aux États-Unis, c'est un peu plus complexe, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Ça peut être symbolisé par ce dessin de Ad Reinhardt, qui par ailleurs est un des protagonistes de l'expressionnisme abstrait, en 1946, qui montre ce tronc très vigoureux de l'art français, avec Braque, Matisse et Picasso, d'où sortent les artistes américains importants, ceux qui sont occupés de questions politiques, de questions d'iconographie et autres, sont complètement alourdis et sont sur cette branche qui va se casser sur la droite de l'image. Ceux qui sortent sont ceux qui sont libérés de toutes ces questions, et on retrouve sur les différentes feuilles de l'arbre les noms de Jackson Pollock, de Mark Rothko, etc. Même si Reinhardt a quelques comptes à régler avec eux par la suite. Guilbault montre comment l'art français qui arrive après la Seconde Guerre mondiale à New York est immédiatement dévalorisé, est immédiatement considéré comme étant insuffisante. Et, par exemple, il fait un sort particulièrement important à l'exposition organisée au Whitney Museum of American Art de façon très exceptionnelle sur l'art français immédiatement après la libération, une exposition qui s'appelle « La peinture en France 1939-1946 » qui veut montrer la vitalité supposée de ce qui s'est passé en France avec notamment Jean Dubuffet et Pierre Talcoat comme héros de l'accrochage. Et le critique Clement Greenberg, que j'ai cité tout à l'heure comme étant celui qui va définir l'expressionnisme abstrait, fait un compte-rendu de cette exposition qui est très violent. L'exposition, je vous la cite, « L'exposition est choquante en elle-même. Son niveau général est bien en dessous de celui des 4 ou 5 dernières expositions annuelles de peinture américaine au Whitney, dont j'ai déjà dit avec vigueur tout le mal que je pensais. Nous autres, les Américains, manquons certes d'assurance, mais il semble bien que nous soyons de manière générale, et pour le moment, plus originaux et plus honnêtes. Et tandis que tout bien considéré, Talcoat, Kermadec et même Dubuffet atteignent le sommet de leur art dans le charme, nous, au moins, lorsque nous l'atteindrons vraiment, nous aurons de la force. » C'est une chose intéressante, je fais une incise sur la manière dont Guilbault utilise cette citation de Greenberg, parce que il y a là un discours sur l'art qui est un discours extrêmement puissant, qui est capable à la fois d'aller droit au but, de le faire vigoureusement, et de suggérer des pistes pour le futur immédiatement, sans que, en tout cas à ce moment-là, elles soient absolument prescriptives. Ça va conduire cette situation-là, et Guilbault le montre très bien, à purger en quelque sorte l'art américain de tous les artistes qui peuvent sembler être entre deux, entre la France et les États-Unis. Et par exemple, Guilbault raconte comment le marchand Samuel Coutts décide de se séparer en 1946 des artistes, c'est à partir de 1946 qu'il est devenu le grand marchand de Picasso aux États-Unis, et donc pendant un certain temps, il a à côté de Picasso des artistes états-uniens, mais qui font le lien avec l'art français de cette époque. Et en 1949, il décide de s'en séparer. Et par exemple, Byron Brown, qui était une des vedettes de sa galerie, il décide de vendre d'un seul coup tous les tableaux de cet artiste. Il les vend dans un supermarché. Les tableaux sont mis dans un coin du supermarché, par terre, sur les murs, un petit peu n'importe comment. Plus de 300 œuvres de Byron Brown d'un seul coup. Évidemment, la carrière de l'artiste est fichue. Il ne s'en relèvera jamais. Il n'est plus personne aujourd'hui dans l'histoire de l'art américain. Et il fait à peu près la même chose avec Romain Bearden. Et Bearden ne doit son salut d'une certaine façon. C'est assez paradoxal, mais c'est les développements de l'histoire de l'art aux États-Unis qui ont produit ça, au fait qu'il est afro-américain et qu'il va être redécouvert dans les années 1960-1970 comme artiste afro-américain, pas du tout pour les tableaux du type de ceux qu'il produisait en 1945-1946. Ce que fait à partir de ce moment-là Sam Coutts, c'est de montrer un groupe d'artistes cohérents, propres aux États-Unis, qui ont assimilé, dit-il, cet héritage surréaliste et abstrait. Coutts a écrit un livre sur cette idée du fait que le grand art américain surgira de la synthèse entre le surréalisme et l'abstraction. Il ne les appelle pas expressionnisme abstrait, le nom n'est pas encore rentré complètement dans le canon. Il cherche un autre nom, il les appelle intrasubjectifs. Le nom est certainement trop moche pour qu'il puisse rester, et on peut comprendre qu'il ne le soit pas. C'est Hans Hofmann, c'est Jackson Pollock, c'est Barnett Newman, c'est Adolf Gottlieb, c'est Hofmann à nouveau pour l'autre partie du l'autre image du catalogue. Donc, il y a là la mise en place très brutale d'un système qui nie la présence possible d'artistes entre deux, un, et deux, qui nient même toute possibilité désormais que l'art produit à Paris puisse avoir le moindre intérêt. Et Guilbault, c'est pas dans le livre « Comment New York a volé l'idée d'art moderne », mais c'est dans une discussion qu'on avait eue à l'occasion d'un catalogue d'une exposition, pointait du doigt, et j'ai vérifié après cette discussion, parce que c'était juste une intuition, pointait du doigt le fait que quand Clement Greenberg fait des comptes rendus hebdomadaires des expositions à New York, il évite systématiquement de mentionner les expositions consacrées à des artistes français. C'est-à-dire qu'il va dans un immeuble. Dans cet immeuble, il y a 3-4 galeries. S'il y a deux artistes états-uniens dans la galerie, il va faire des critiques uniquement sur ces deux artistes. Et les deux artistes français qui sont dans les deux autres galeries, puisque à l'époque, à la fin des années 1940, il y a encore un équilibre sur le marché, il les oublie volontairement. Ce qui est effectivement une forme de manipulation. On essaye malgré tout de faire des juxtapositions des nouveaux artistes français et des nouveaux artistes américains, mais c'est systématiquement pour juger en défaveur des artistes français, y compris au prix de manipulations historiques, puisque, par exemple, les critiques de l'exposition de jeunes peintres des États-Unis et de la France qui a lieu à la galerie Sidney Janis, qui est la grande galerie des expressionnistes abstraits, quelques années plus tard, en 1950, rapproche, mais ensuite pour les opposer, Pierre Soulages et Franz Kline, en expliquant que les tableaux en noir sur blanc de Pierre Soulages sont imités de ceux de Franz Kline, alors que, en réalité, Soulages fait des tableaux de ce type depuis beaucoup plus longtemps, et que, alors ça c'est ce que Soulages dit, parce qu'on a toujours des effets retour dans l'autre sens, c'est Kline qui l'aurait imité. En fait, personnellement, le débat ne m'intéresse pas de ce point de vue-là, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que la critique états-unienne regarde systématiquement les choses dans ce cas-là. Et évidemment, on choisit un tableau de Soulages de 1950 qui a l'air très post-cubiste, peut-être qu'il s'est d'ailleurs prêté lui-même à montrer ce genre de tableau, ne se rendant pas très bien compte des enjeux, plutôt que des tableaux qui auraient pu le faire voir comme un artiste beaucoup plus novateur de ce point de vue-là. On a, à partir de ce moment-là, un véritable groupe constitué d'expressionnistes abstraits qui posent pour une photo qui est restée extrêmement célèbre. On y voit, par exemple, je ne vais pas donner tous les noms, sur la droite avec une petite moustache, vous avez Rothko. Au centre, sur le tabouret, vous avez Barnett Newman. Au-dessus de Newman, il y a Jackson Pollock. Au-dessus de Pollock, vous avez Adrian Hart. Et donc, on a des artistes qui se présentent comme un groupe et un groupe ayant véritablement triomphé à ce moment-là, en s'opposant au système traditionnel des musées et au système du marché, ce que Guilbault a encore déconstruit de façon importante. À partir de là, ce que montre Serge Guilbault, comme ça avait été montré par Cockcroft, mais de façon plus large, c'est comment cette lecture est imposée internationalement à partir d'expositions qui sont financées en partie par le gouvernement des États-Unis, avec en particulier un tour triomphal de l'exposition sur la nouvelle peinture américaine qui en France, à Paris, est couplée à une rétrospective de Jackson Pollock en 1958-1959. Et quand l'exposition est présentée au MoMA de New York, après tout ce tour, comme vous pouvez le voir plus ou moins bien sur la diapositive, sur l'image qui est en bas à droite, elle est présentée donc avec le titre de l'exposition, The New American Painting, ça ouvre sur des tableaux de Jackson Pollock, et vous avez la liste des villes avec les dates européennes dans lesquelles l'exposition a été présentée, avec Milan, Madrid, Berlin, Amsterdam, Bruxelles, Paris, Londres. Donc tout cela se fait en même temps que le plan Marshall, ou un petit peu après que le plan Marshall ait permis effectivement de tout annihiler. En tout cas, de tout annihiler, je veux dire, de tout annihiler toute possibilité de résistance à ce discours, puisque les choses sont assez claires à partir de ce moment-là. Les scènes locales se trouvent mises complètement de côté. C'est la grande peinture américaine de cette époque-là, la nouvelle peinture américaine, qui peut effectivement triompher. Et le résultat de ce triomphe, c'est, encore une fois, le Grand Prix de la Biennale de 1964 à Rauschenberg, et évidemment on montre à ce moment-là comment ça implique de l'argent du gouvernement américain de façon directe ou indirecte. Il me semble qu'aujourd'hui nous sommes dans une histoire qui s'est largement complexifiée et mon ami Serge Guilbeault est un des acteurs de cette complexification et je ne voudrais pas le réduire à ce qu'il a fait précédemment. Ce qu'il a fait dans les années 1980 et qui nous ont effectivement très fortement nourris. Il a lui-même donné un tableau beaucoup plus complexe de la situation de l'après-guerre en organisant en 2007 au MACBA de Barcelone une exposition qui s'appelait Bibomb. Le titre n'est pas traduisible, c'est un jeu de mots sur Bebop et la bombe H, la bombe atomique. Vous avez deux vues de l'exposition en diagonale en haut à droite et en bas à gauche, et vous pouvez voir qu'y étaient juxtaposées par exemple des œuvres de Jackson Pollock et de Bram van Velde, peintres vivants en France d'origine néerlandaise, ou encore des œuvres de Frans Klein, Pollock et le même van Velde dans l'image en bas à gauche. Et puis j'ai moi-même avec Sylvie Ramon, la directrice du Musée des Beaux-Arts de Lyon, fait une exposition en 2008 à Lyon qui s'appelait « Repartir à zéro ». Et dans l'image en haut à gauche, vous pouvez voir une salle dans laquelle étaient juxtaposées des œuvres de Soulages, des œuvres de Barnett Newman et des œuvres de Lucio Fontana qu'on ne voit pas sur l'image. Et puis en bas à droite, une image dans laquelle on voit juxtaposer des œuvres de Jackson Pollock et des œuvres d'un peintre polonais, Andrzej Wróblewski. Si cette histoire s'est complexifiée, alors dans le cas de Serge Guilbeault, c'est en allant beaucoup plus loin dans le face-à-face Paris-New York. Dans celui que je propose, c'est en sortant de ce face-à-face Paris-New York qui, en fait, conduit à ne comprendre les choses que de façon beaucoup trop simplificatrice. Et sortir de ce face-à-face, c'est prendre en compte la manière dont la Seconde Guerre mondiale a produit un effet absolument de transformation profonde de la perception du monde, à la fois à cause des destructions massives qui ont eu lieu en Europe, mais la perception aux États-Unis est celle d'un traumatisme également, même s'il n'y a pas eu de destruction massive sur le sol américain. Il n'empêche que Pearl Harbor est vécu par l'ensemble des Américains comme un traumatisme parce que c'est la première attaque sur le sol américain, même si Pearl Harbor n'a pas encore le statut Hawaï n'a pas encore le statut d'État à ce moment-là, il n'empêche que c'est vécu comme le sol américain. Donc les destructions massives, l'extermination des Juifs d'Europe et des Tziganes avec les rapports qui en sont faits dans la presse, et l'explosion de la bombe atomique, tout ça fait une situation de trauma absolument fondamentale et générale dans le monde occidental. Sans doute peut-on le résumer par l'article d'Albert Camus publié le 8 août 1945, donc tout de suite après les explosions au Japon, où Camus explique que le suicide collectif est une option probable pour la civilisation mécanique, c'est-à-dire la civilisation occidentale, et que donc on se trouve dans cette situation obligée de changer radicalement. Ce que les artistes font de façon internationale dans le monde occidental, c'est de réagir d'une manière qui est une manière étonnamment similaire, et à mon sens, s'ils réagissent de façon similaire, c'est parce qu'ils ont ce même fondement. Peut-être suis-je trop formaliste, mais je l'assume, ce même fondement surréaliste et abstrait que celui qu'on a évoqué dans la première histoire dont je parlais au début de cette conférence. La destruction des Juifs, par exemple, trouve des réponses très directes, un petit peu partout dans le monde occidental, à un moment où les communications sont à peu près impossibles. Aussi bien donc en Pologne, avec Szczeminski, qui est un des artistes abstraits majeurs de l'histoire de l'art polonaise des années 1930, qu'en France, avec Fautrier, ou encore, ce qu'en général on a tendance à oublier, avec le très jeune Olivier Debré, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais aussi chez les artistes américains, quoique d'une façon non déclarative. Je pense par exemple à ce tableau d'un jeune artiste expressionniste abstrait californien, Frank Lobdell, qui peint en 1948 un tableau qui porte un titre très, très factuel, 31 décembre 1948, la date à laquelle il a terminé son tableau, mais dont il a expliqué ensuite que c'était en rapport direct avec sa découverte d'un massacre perpétré par les SS sur une colonne de déportés dans une petite grange à Gardelegen, où les SS ont brûlé une dizaine de milliers plus d'un millier de déportés au moment où la grange est découverte par l'armée américaine avec une unité dont faisait partie Frank Lobdell. Et en fait, la chose qui l'a le plus impressionné, c'est les traces de mains brûlées sur le haut des parois de la grange en question. Donc il y a une réaction qui est une réaction qui produit des formes différentes, mais toutes vont en quelque sorte dans le même sens. Je n'ai évidemment pas le temps de développer ici. Même réaction aussi dans l'idée qu'il faut repartir à zéro et que pour cela il faut expérimenter la construction du tableau à chaque fois ou la réalisation du tableau à chaque fois comme une expérience nouvelle, et que cette expérience nouvelle on la fait avec des moyens qui, là encore, sans connaissance réciproque des moyens inventés, sont des moyens similaires, avec des significations différentes, mais des moyens similaires, et que prendre l'état de cette similitude est une chose extrêmement importante. C'est le cas, par exemple, pour la coulure ou la griffure, qu'on trouve aussi bien à Paris chez Vols que à New York chez Jackson Pollock, ou que à Prague chez Josef Fistler, à Montréal chez Jean-Paul Riopel, à Paris chez Georges Mathieu, ou à New York encore chez Hans Hoffmann. Et un des cas qui me fascine le plus de cette simultanéité sans possibilité de connaissance réciproque du travail, et qui est un cas sur lequel malheureusement mon absence de maîtrise du russe m'empêche de travailler, c'est la réalisation en 1943 par Alexander Rodchenko, le grand artiste constructiviste, celui qui avait fait les derniers tableaux de l'histoire de la peinture en 1921, d'un grand panneau qui est réalisé en grande coulure de peinture et qu'il appelle « rythme expressif » qui se trouve aujourd'hui au musée de Thessalonique. En même temps donc que les premières expérimentations de Pollock, et comme l'œuvre de Rodchenko est très en longueur, j'ai pris une œuvre de Pollock qui est très en longueur, qui n'est pas exactement de la même année, mais on pourrait le faire avec une œuvre de 1943. Ce qui est intéressant, c'est que on aboutit à ce moment-là à quelque chose, si on regarde les choses de cette façon-là, à quelque chose qui n'isole plus les États-Unis du reste du monde, qui ne les entrevoit plus seulement comme étant inclus dans un champ de compétition ou de marketing, pratiquement, mais au contraire comme une manière de travailler sur des sujets similaires en faisant un certain nombre d'expériences, et en tout cas pendant toute la période où il est possible de faire ces expériences sans encore les rigidifier pour en faire des outils de conquête du marché ou de conquête des institutions, on a une situation qui est une situation très horizontale et qui doit encore être largement travaillée, parce que ce que je viens de vous présenter et ce que j'avais essayé de montrer dans cette exposition qui est déjà ancienne, hein, 2008, c'est des bases pour un travail à venir plus important. Évidemment, à partir du moment où, et c'est là où ça ne s'oppose pas aux lectures précédentes, à partir du moment où l'expressionnisme abstrait états-unien est allié à un système politique et financier particulièrement important et conquérant, toutes les conditions sont réunies pour que, petit à petit, on ne pense l'expressionnisme abstrait que dans sa version des États-Unis. Mais il me semble qu'on est aujourd'hui sorti de cette situation et qu'on peut regarder comment, en réalité, il y a un expressionnisme abstrait international avec des variantes suivant les pays, ou même pas suivant les pays, même à l'intérieur du même pays, parce que cette manière de regarder les choses permet aussi de complexifier les choses à l'intérieur des États-Unis, en voyant comment, par exemple, à l'intérieur des États-Unis, même parmi les grands noms, qu'en général on lit uniquement à travers un prisme new-yorkais, on est en face d'artistes qui ont développé l'essentiel de leur carrière en dehors de New York. Et c'est le cas en particulier de Clifford Steele. Clifford Steele qui doit sans doute son inclusion dans le canon de l'expressionnisme abstrait états-unien. Il est présent par exemple sur la photographie des Irascibles qu'on a vu tout à l'heure et que j'aurais dû donc vous pointer son visage. Il est sur la droite de la photographie. A en réalité passé l'essentiel de sa vie en Virginie et en Californie et il a seulement passé quelques mois à New York en 1945-1946 et en 1948 et puis il est revenu à New York depuis la Virginie parce que ça n'est pas trop loin pour faire des photos de groupe ou des choses de ce type-là. En même temps, en Californie par exemple, se développent de très nombreux artistes très tôt, avant que l'expressionnisme abstrait soit devenu un style adopté internationalement et valorisé par les institutions et par le marché, comme par exemple Richard Debenkorn, dont vous avez ici une reproduction d'un tableau de 1949. Deuxième mode de complexification, c'est celui qui montre comment à l'intérieur même d'une chronologie plus longue, on n'a pas une seule génération d'expressionnistes abstraits états-uniens, mais plusieurs générations, avec des passages de témoins entre les différents artistes. Je fais là une synthèse très rapide pour montrer comment on passe de Jackson Pollock à Norman Bloom, qui est un artiste de la génération suivante, qui se trouve en couverture d'un livre montrant les artistes de New York dans leur atelier, le livre « The Artist's World » de Fred McDerr. En même temps, il y a là une situation d'impossibilité, puisque tout l'expressionnisme abstrait est fondé sur l'idée que chaque tableau doit être une aventure nouvelle, que chaque tableau doit être absolument original, et qu'on se rend compte, comme je viens de le montrer internationalement, mais on se rend compte encore plus de ça à l'intérieur des États-Unis, du fait que précisément cette spontanéité donne des résultats qui sont à peu près toujours équivalents. Et donc on assiste à la mise en place d'une sorte d'école avec première génération, deuxième génération, troisième génération et des maîtres, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des années 50 à l'idée qu'on peut soi-même, même si on est un amateur, faire partie de ces écoles. Et il y a un livre que je trouve très fascinant publié en 1961 qui explique par exemple comment, alors c'est toujours une jeune fille qui sert de modèle dans les photographies, on peut faire son propre Rothko, à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, mais enfin quand même c'est Rothko, ou faire son propre Pollock. Alors évidemment, la jeune fille ne va pas se tacher comme Pollock le fait en mettant partout, mais elle peut le faire très tranquillement dans son salon. Ça vaut pour les États-Unis, mais même à l'extérieur, il y a une diffusion très rapide du modèle américain. Et à mon sens, quand on insiste sur le fait que tout cela est fait par le biais de la CIA, nous qui sommes français et qui avons l'habitude de solliciter chaque fois que nous faisons quelque chose, universitaire, commissaire d'exposition ou autre, une subvention publique, même un festival quel qu'il soit, ça nous semble tout à fait normal d'aller demander une subvention publique. On reproche aux États-Unis, aux institutions des États-Unis d'avoir fait la même chose. Simplement, avant la création du National Endowment for the Arts, qui vient d'être complètement sabré, enfin dont les dotations viennent d'être complètement sabrées par l'actuel gouvernement des États-Unis, je peux le dire parce que je suis aussi citoyen américain, donc il ne s'agit pas de dénoncer quelque chose qui se passe à l'extérieur en tant que Français qui serait préservé de ce genre de choses. Enfin, en tout cas, je me permets de le dire. Avant la fondation du National Endowment for the Arts, il n'existait pas d'autre mode de financement de la politique culturelle américaine que celle qui passait par la CIA et par différentes branches du ministère des Affaires étrangères. Donc, il n'y a pas d'opposition de ce point de vue-là. Ça aurait été, je ne sais pas moi, le FBI, ça aurait peut-être été un petit peu différent. Mais donc, effectivement, cette diffusion se fait avec l'accompagnement du gouvernement américain, mais pas d'une manière qui me semble particulièrement illégitime, et des artistes européens ou occidentaux, un petit peu partout, l'Occident au sens large du terme, l'Occident politique qui s'est défini et culturel qui s'est défini après la Seconde Guerre mondiale, reprennent les prémices de l'expressionnisme abstrait pour en faire autre chose. C'est le cas au Japon avec les artistes Gutai et par exemple Shiraga, c'est le cas en Allemagne avec des artistes comme Goethe et d'autres, et avec, à la même époque, un certain nombre de personnalités qui essayent de penser cet expressionnisme abstrait. Ils ne l'appellent pas comme ça parce que le terme est trop connoté pour eux dans un climat de compétition avec les États-Unis pour être utilisables en tant que tels, ils utilisent d'autres termes, qui essayent donc de penser l'expressionnisme abstrait à un niveau transnational. C'est le cas en France du critique Michel Tapier, que vous voyez ici dans une galerie parisienne avec des tableaux aussi bien de Dubuffet que de Michaud, qui sont des artistes français, ou que de Sam Francis ou de Jackson Pollock, qui sont des artistes américains, ou encore de Claire Falkenstein, qui est une artiste des États-Unis, mais de la côte ouest des États-Unis, qui organise des expositions qui circulent en Europe sur cette idée de confrontation et de mise en relation de ce qui se fait aux États-Unis et de ce qui se fait en Europe, en particulier l'exposition Véhémence confrontée, qui circule à Londres sous le titre de Opposing Forces. Et cette manière de faire fait que, d'ailleurs, la France, elle, est trop prise dans cette espèce d'opposition chauvine New York contre Paris pour même voir que les choses sont en train de se passer à New York, et donc percevoir qu'il y a un sujet sur lequel il faut réagir et qu'il faut quitter une position strictement nationaliste. Mais en Grande-Bretagne, qui est en dehors en quelque sorte de cette rivalité mimétique, il y a la possibilité de regarder les choses de façon différente. Et au moment de l'exposition Véhémence confrontée à l'ICA de Londres, les critiques insistent sur le fait qu'on a une même tendance qui va de Pollock à Dubuffet. Et je vous prends exprès deux tableaux qui étaient dans l'exposition de l'ICA. Et les artistes britanniques eux-mêmes, qu'en général on néglige complètement, font effectivement des choses qui montrent qu'ils regardent à la fois les artistes français et les artistes des États-Unis. C'est le cas par exemple de Patrick Heron, avec ici simplement une comparaison rapide avec un tableau de Rothko, en bas à gauche et un tableau de Nicolas de Staël à droite. Quand on regarde les choses de façon plus complexe, et que je vais en terminer par là, on se rend compte aussi que la situation est beaucoup plus ouverte qu'on ne le dit en permanence, puisque un certain nombre d'artistes états-uniens, qu'aujourd'hui on reconnaît comme des artistes majeurs, ont choisi précisément de s'établir en Europe et de ne pas rester aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Alors, sans rentrer encore une fois dans les détails, je voudrais en citer trois, et je terminerai par là. C'est le cas de John Mitchell, qui s'installe à Paris en 1955 et qui va continuer tout le reste de sa vie jusqu'au début des années 1990 et sa mort à vivre en France, à Vétheuil, en Normandie en particulier, elle va quitter Paris. C'est le cas, puisque je dis qu'il est important de sortir de la rivalité mimétique Paris-New York, de Cy Twombly, qui voyage en Italie et en Europe en 1952-1953 et qui s'installe à Rome en 1957, mais qui continue à regarder de façon très importante l'art qui se fait partout en Europe. Et évidemment, étant ici, j'ai choisi de vous montrer une reproduction de ce tableau qui s'appelle École de Fontainebleau et qui date de 1960. Et puis, c'est le cas encore, je prends juste trois exemples, de Ellsworth Kelly, qui s'installe à Paris en 1948, qui va y rester jusqu'en 1954, et qui travaille à partir de la tradition européenne en inventant quelque chose qui lui appartient en propre, qui est cette idée de faire des abstractions qui sont directement prélevées dans le monde extérieur, donc qui réconcilie d'un seul coup, dès 1949, l'abstraction et la figuration, ou qui rend obsolète la distinction entre les deux, avec sa fameuse construction fenêtre musée d'art moderne Paris. Le titre est en réalité impropre, mais c'est le titre historique donné par Kelly, qui appartient maintenant au Musée national d'art moderne à Paris, et qui est la transposition, on le voit sur cette image de Kelly dans son appartement, la transposition des fenêtres du Musée d'art moderne de la ville de Paris et du Palais de Tokyo, qui était à l'époque le siège du Musée national d'art moderne. Sans rentrer dans le détail de ces trois artistes, il me semble important donc de comprendre que cette opposition face à face est une mauvaise opposition, que nous en sommes aujourd'hui largement sortis. Ces trois artistes, par exemple, en particulier John Mitchell et Ellsworth Kelly, ont entendu une grande partie de leur carrière, jusque dans les années 1980, qu'ils étaient « too French » dans le monde de l'art américain. Et puis, petit à petit, ils ont été reconnus comme des artistes majeurs Et je pense que si on veut aujourd'hui comprendre comment on est dans cette, comment ces artistes ont pu être des artistes majeurs, c'est simplement en recomplexifiant les choses et en disant qu'effectivement New York n'a pas volé l'art moderne, que New York s'en est simplement servi et que d'autres artistes ont continué à s'en servir dans le reste du monde occidental. Merci.